Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Dantel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Journée nettement plus calme, vous le disiez, pour le 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Le dispositif maximal de sécurité a visiblement dissuadé les plus radicaux à venir à Paris. Trois fois moins de manifestants à la mi-journée que samedi dernier. 70 interpellations à Paris pour l'instant. Et quelques tensions en ce moment pour la dispersion dans le quartier du canal Saint-Martin. Dans ce journal, la chute de l'ultime bastion de l'État islamique, mais cela ne veut pas dire qu'on en a fini avec Daesh. Et puis c'est parti pour la folie Toutankhamon. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour découvrir les trésors du jeune pharaon et on se bouscule déjà à la grande halle de la Villette.
Europe 1. L'objectif des autorités pour ce 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, c'était d'éviter à tout prix de revoir les scènes de magasins pillés ou incendiés de la semaine dernière.
Objectif a priori atteint à Paris avec une mobilisation maximale des forces de l'ordre. 6000 hommes et femmes pour quadriller la capitale, des périmètres très larges où il est interdit de manifester des Champs-Élysées à la Concorde et l'Assemblée nationale. Ce dispositif a-t-il dissuadé certains manifestants? Le ministère de l'Intérieur parlait en tout cas de 3000 gilets jaunes à Paris à la mi-journée, trois fois moins que samedi dernier. Théo Manval, vous avez suivi leur cortège dans les rues de Paris qui a rejoint le Sacré-Cœur dans une ambiance plutôt bon enfant.
Oui, Fabienne, avec cette image assez détonnante, ces milliers de gilets jaunes sur le parvis du Sacré-Cœur, jusque dans le Sacré-Cœur même pour certains, puisqu'une poignée est parvenue à monter dans la coupole et à tenter de déployer une banderole jaune sur la façade. Cortège, vous le disiez, de plusieurs milliers de personnes qui ont défilé dans le calme, avec un mot d'ordre, la détermination, à l'image de l'une des figures du mouvement présente dans les rangs, Jérôme Rodriguez.
Les gens sont présents. Le gouvernement a cherché à nous faire peur pour nous empêcher de manifester. Je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui a peur. Il transpire même la peur de la faire rentrer l'armée. On va continuer à manifester, on va continuer à marcher et à crier notre colère. Parce qu'on n'est pas des violents, on est en colère. C'est pas pareil. Le printemps arrive, ça va être un printemps révolutionnaire.
Les manifestants ont traversé tout Paris sous l'escorte étroite des CRS. À aucun moment, on a aperçu de militaires de l'opération Sentinelle. Pas de heurts, climat totalement différent de la semaine dernière. Et c'est bien ce que voulait Arnaud. Il l'a même écrit au dos de son gilet.
Il y a écrit, aujourd'hui, j'exprime ma colère pacifiquement parce que je veux respecter la loi. Par contre, je ne crois pas du tout en ce que je fais. Il n'y aura aucun résultat. Voilà, ça ne changera pas. Et je pense que quand il y a des casseurs, c'est comme ça que ça avance. Mais moi, je ne suis pas un casseur.
Et si lui est un peu désabusé sur la suite, le slogan qu'on a beaucoup entendu une fois encore aujourd'hui, c'est « Ne pas lâcher, on n'a pas obtenu assez ».
Ça n'avance pas. Tant qu'ils ne nous auront pas donné le moyen de vivre dignement, des salaires, des retraites, qu'on ne luttera pas contre l'évasion fiscale, on ne lâchera pas.
Et en ce moment, Fabienne, les forces de l'ordre sont en train de disperser les dernières centaines de manifestants qui improvisaient un cortège sauvage boulevard de Strasbourg et qui ont brûlé quelques poubelles.
Effectivement, on voit qu'il y a en ce moment quelques tensions avec la dispersion du côté du boulevard de Strasbourg, comme vous le disiez Théo. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les violences de la semaine dernière sur les champs Élysées, ce qui semble montrer, Chloé Triomphe, que le dispositif des forces de l'ordre a dissuadé les plus radicaux de venir à Paris.
Oui, en tout cas, effectivement, à cette heure-ci, ce dispositif semble avoir porté ses fruits, en tout cas à Paris, avec en fin d'après-midi seulement 70 interpellations dans toute la capitale. C'est peu au regard des samedis d'ultra-violence. Souvenez-vous du pic du 8 décembre, il y avait eu plus de 1300 interpellations à Paris et en Ile-de-France. On compte aussi 49 verbalisations sur le périmètre interdit, c'est-à-dire dans un large périmètre autour des Champs-Élysées. Et on rappelle que le gouvernement a triplé cette semaine le montant de l'amende qui est passé de 38 à 135 euros. Donc une mesure clairement affichée comme un moyen de dissuasion. Ça a été publié il y a deux jours seulement au journal officiel. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que les contrôles préventifs annoncés ont effectivement été très nombreux puisqu'ils sont plus de 6800 à 17h selon la préfecture de police de Paris. Alors que ce soit dans les gares, au péage d'entrée en Ile-de-France, dans les transports en commun, et bien sûr dans les rues, le but étant de stopper toute personne porteuse de ce qui peut constituer une arme. Alors ailleurs qu'à Paris, il y a eu aussi de nombreux rassemblements avec là aussi des périmètres interdits dans une quinzaine de villes comme à Nice, Toulouse ou Bordeaux pour ne citer qu'elles. Il y a eu quelques tensions, notamment à Montpellier, mais rien à voir là encore avec d'autres samedis. Et puis selon le ministère de l'Intérieur, on rappelle que le nombre de manifestants se montait à plus de 8000, dont 3000 rien que dans la capitale.
Chloé Triomphe. Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Vous parliez à l'instant, Chloé, de la situation à Montpellier avec un cortège qui a réuni près de 4500 personnes. Et d'ailleurs, effectivement, avec les forces de l'ordre qui ont reçu des canettes et des bouteilles de bière à Nice, ils ont été 200 à braver l'interdit du périmètre de sécurité avec une situation un peu tendue quand les forces de l'ordre ce matin ont évacué les manifestants.
Il y a un an, son geste héroïque avait marqué la France.
Le colonel Arnaud Beltrame avait pris la place d'une femme retenue en otage dans un supermarché de Trèbes dans l'Aube, un geste qui lui avait coûté la vie. Et aujourd'hui, c'est toute la ville qui rendait hommage en présence d'Édouard Philippe aux quatre victimes de cette attaque terroriste. Un grand moment d'émotion pour le maire de Trèbes dans l'Aude, Éric Ménassy.
Un moment très, très émouvant, chargé à la fois d'appréhension et d'émotion. Mais je suis... J'ai presque honte de vous dire aujourd'hui que je suis très heureux de pouvoir enfin passer à autre chose et que la ville ait pu au travers de cette commémoration, se retrouver avec beaucoup de dignité. Et moi, j'ai été très sensible aux mots, bien sûr, de Julie, qui ont été à la fois chargés d'émotion et d'une telle sincérité, mais aussi des mots du Premier ministre, qui nous a dit en fait que Trèbes avait montré ce qu'il y avait de meilleur en vivant le pire. Et je crois que c'est un résumé exceptionnel de cette année que vous venez de vivre. Donc on en a bien besoin. Vraiment, passons à autre chose maintenant, sans oublier.
Le maire de Trèbes, Éric Ménassy, au micro du correspondant d'Europe 1, Benjamin Peter.
Europe 1. À suivre, la chute du dernier bastion de l'État islamique en Syrie.
18h08, la suite du journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
C'est donc ce matin que le dernier bastion du groupe État islamique en Syrie est tombé.
L'assaut final contre le réduit d'El Barouz avait été lancé il y a un mois. Didier François, vous nous avez fait vivre cette offensive sur Europe 1. Vous étiez encore sur place il y a deux semaines. Pour les forces démocratiques syriennes, cette victoire à El Barouz signe la fin du califat. Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors c'est tout de même d'abord la fin d'une utopie cauchemardesque, parce que n'oublions jamais de le rappeler, mais le califat autoproclamé s'est bâti sur des dizaines de milliers de cadavres, le massacre de populations chiites dans le nord de l'Irak, l'exécution sommaire des tribus sunnites qui refusaient de lui prêter allégeance dans le nord de la Syrie, génocide de villages kurdes des deux côtés de la frontière, crucifixion des communautés chrétiennes, réduction en esclavage des populations yazidis. On est très au-delà du simple crime de guerre et on retrouve chaque semaine des fosses communes dans les régions libérées de la théocratie totalitaire de Daesh. Ensuite, il faut se souvenir qu'à son apogée, le califat avait la taille pratiquement de la Grande-Bretagne avec une population de plusieurs millions d'habitants soumise à toutes sortes d'impôts, d'amendes, de taxes qui rapportaient jusqu'à 10 millions d'euros par mois et auxquels il fallait ajouter les revenus de 12 champs de pétrole avec leur raffinerie, soit une cagnotte de 2 millions d'euros par jour, ce qui a fait de Daesh le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire, disposant à la fois de finances illimitées et d'une puissante base arrière pour préparer ses attentats partout dans le monde avec des camps d'entraînement, des réseaux informatiques cryptés et un puissant appareil de propagande et de recrutement. Alors certes, en perdant son califat, Daesh ne va pas subitement disparaître. L'organisation va basculer dans la clandestinité et poursuivre une guerre de harcèlement tous azimuts. Mais toutefois, avec des moyens financiers et logistiques désormais beaucoup moins conséquents.
Didier François et premier commentaire d'Emmanuel Macron après la chute du califat. Un danger majeur pour notre pays a été éliminé, mais la lutte contre les groupes terroristes doit continuer.
Ça y est, la folie Toutankhamon, c'est parti.
On ne sait pas encore si le record de 1 200 000 visiteurs, c'était en 1967 au Petit Palais qui avait accueilli les trésors du jeune pharaon, sera battu cette fois. Mais en tout cas, on se bouscule à la grande halle de la Villette depuis ce matin pour admirer ces 150 objets, comme a pu le constater Yasmine Akatou.
Dans les salles, les lumières sont tamisées, les visiteurs jouent des coudes pour approcher les biens de Toutankhamon. Les appareils photos crépitent. Jean a réservé sa place il y a plusieurs mois déjà. Sourire aux lèvres, il est un peu rêveur.
Tout est émouvant, tout est beau.
Vous dites ça, vous avez un peu les yeux pétillants, comme un enfant.
Oui, c'est vrai. L'immortalité, cet espoir que l'humanité a d'aller au-delà de cette vie, je pense que c'est universel. Ça attirera toujours.
Des statuettes en or d'une précision époustouflante, des bijoux, des vases gravés de hiéroglyphes. Face au lit funéraire en bois recouvert de feuilles d'or, Josiane est fascinée.
Quand on pense que ça date de 3000 ans et que c'est toujours aussi beau, quand on voit tous ces objets qui devaient l'accompagner dans sa deuxième vie, c'est extraordinaire.
Extraordinaire, ça l'est toujours pour Nicole. Elle a pourtant déjà vu une partie de la collection au Caire. Pour elle, l'émotion est la même qu'en Égypte.
Ils ont su recréer comme un côté intime, comme si Toutankhamon nous accueillait chez lui.
Et pour pénétrer l'univers de Toutankhamon, vous avez jusqu'au 15 septembre. C'est la dernière fois qu'une telle exposition aura lieu en France.
Yasmina Katou, après il faudra aller au Caire, Philippe, pour admirer ses œuvres à partir de 2022.
Moi je vais commencer par la Villette. C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Europe 1, 18h12.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Demain, un peu plus de nuages et un peu plus de fraîcheur.
Tout à fait Philippe, même si on reste dans des conditions anticycloniques qui vont maintenir d'ailleurs un temps calme sur tout le pays. Mais c'est le vent du nord qui va apporter les nuages de la Bretagne à la Vendée, à l'Alsace, jusqu'aux Ardennes. Et près de la Manche tout de même, vous retrouvez le soleil qui va briller, comme d'ailleurs sur tout le reste des régions que je n'ai pas citées puisque c'est les deux tiers sud et la façade est. Le matin, il fera entre 3 et 8 degrés. L'après-midi, les températures sont contrastées avec de la fraîcheur sur les régions les plus au nord. Pas plus de 10 à 12 près de la Manche, 13 à 16 jusqu'à la Loire et 17 du Lyonnais à 22 à l'Aquitaine pour le sud jusqu'à 25 dans l'arrière-pays méditerranéen.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.